Tu vas au boulot, tu marches seule.
Histoire de femme.
À la hauteur du H&M. Y a un type qui gueule. Eh, salut, bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour le 4 heures. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite? Je t'ai pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps? Et t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. S'il faut arrêter de te plaindre, là, tu l'as bien cherché. T'as une jupe tellement courte, même pas besoin de la soulever. Les filles comme toi, c'est dangereux. Pire que le mal incarné. Et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur l'antenne de Graffiti en direct à La Roche-sur-Yon, la super méga radio vendéenne. Moi c'est Audrey et c'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir donc pour notre rendez-vous mensuel. Avec moi il y a sur le plateau Alex, la technique.
Oui, bonsoir. Salut Audrey. Bonsoir salut, tout le monde.
Qui est chargé de la playlist et tu nous en parleras peut-être maintenant si tu veux ou un peu tout à l'heure.
Oh, bah, je vais passer que des trucs qui font à peu près bouger ou de la chanson engagée. De toute façon, hein, je change pas de registre encore cette année. Donc
super, on va découvrir plein de trucs.
C'est ça.
Merci Alex. Sur le plateau et avec moi, il y a aussi Annie. Hein, bonsoir Annie.
Salut Audrey, salut Alex.
Alors
salut.
Toi, tu vas nous faire tes chroniques mensuelles.
Eh bah ben, ouais.
Se rend-elle plus gaie que d'habitude?
Je sais pas trop.
On n'y arrivera pas. Hein.
Non, je pense
un
que
truc
ça va
comique
être
un jour, Annie.
Bah, j'ai essayé, j'ai quand même mis un peu de comique. Hein. On essaiera, on fera ce qu'on pourra.
Ah ouais, d'accord, t'as mis un peu de comique. Oui. Chouette, super, super. Alors ce soir, nous recevons une invitée à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Elle s'appelle Lucie. Elle dérange. Elle a très longtemps vécu isolée, cachée. Elle a été rejetée. Elle a été brimée. Et c'est elle qui vous en parlera bien mieux que moi. Lucie, bonsoir.
Bonsoir Audrey.
Merci d'être avec nous ce soir. C'est avec plaisir qu'on t'accueille dans le studio de Graffiti.
Ça me fait plaisir également.
Et alors, j'ai dit quelques mots un peu forts peut-être en introduction pour te présenter. Enfin, un peu fort pour nos auditeurs et nos auditrices peut-être qui ne savent pas qui tu es et surtout quel est ton parcours, ce dont tu vas nous parler ce soir. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots sur quoi va porter ton témoignage? Qu'est-ce que tu es venu témoigner de quoi ce soir?
Alors, je témoignais d'abord de l'isolement des personnes qui ne correspondent pas à la société hétéronormée, et surtout dans une génération qui disparaît, parce que j'ai quand même un certain âge, sinon un âge certain.
Et oh, donc, 32 ans
Oui, évidemment, mais tout de même, il faut voir les choses comme elles sont. Et c'est ce témoignage que j'essaye de diffuser un peu partout avec d'autres amis en France. Puisque, comme je le disais, c'est une génération qui était invisible.
Alors, pour être très clair, nos auditeurs et nos auditrices ne te connaissent pas. Mmh. Ils t'entendent parler de la difficulté de vivre dans un univers hétéronormé.
Oui.
Et en quoi c'est difficile pour toi? Ou ça a été difficile, ou ça l'est encore?
Eh bien, tout simplement... Parce que vers 13-14 ans, j'ai eu soit le courage, soit l'inconscience de dire à ma maman que je ne me sentais pas un garçon. Et même si j'avais un corps de garçon et que finalement j'étais très troublé de ça, que ça ne m'allait pas et que j'étais quand même assez malheureuse à l'intérieur. Donc évidemment, milieu rural, on rendait en 1960. 5, 6, c'est pas forcément le paradis.
Ouais, c'est vrai que voilà. Déjà la Vendée, déjà à l'époque.
Oui, et en milieu rural surtout.
Oui.
Ça veut dire aussi que si on ne correspond pas à cette période-là et en ce milieu aux règles qui ont été imposées depuis des siècles, il faut le dire, par les religions, parce que c'est ça le principe. Et puis par, évidemment, la société elle-même qui est régie aussi, toujours encore, dans ces années 60, par la religion. eh bien, si ça ne correspond pas, c'est qu'on n'est pas bien. Et si on n'est pas bien, c'est qu'on est malade. Et si on est malade, ben, il faut se faire soigner.
Et donc ça, tu avais 13 ans à peu près, hein, quand tu as annoncé ça à ta mère.
C'est ça.
Tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais ? Est-ce que tu attendais quelque chose de sa part quand tu l'as dit ? Ou c'est, je ne sais pas, est-ce que tu te souviens ? Est-ce que tu l'as dit naïvement comme ça ? Ou est-ce qu'il...
Oui, je l'ai dit naïvement avec un petit peu d'espoir, parce que c'est ma maman.
Oui.
Et que dans ma génération, les mamans, enfin, c'est sacré, il n'y a rien au-dessus de la maman. Mm. Même le papa, il est en dessous. On a peur du papa, mais c'est tout. Et donc, évidemment, ça ne lui a pas plu du tout. Alors, j'ai su plus tard pourquoi. Parce qu'elle a développé envers moi une forte animosité, très très rapidement. Et évidemment, j'ai senti dans les mois qui ont suivi que, tout simplement, elle ne m'aimait plus. Et évidemment,
c'est
terrible, quand on a 14 ans... on passe, il n'y a pas d'adolescence à l'époque. On passe de l'enfance à l'âge adulte.
Donc tu veux dire qu'elle a cessé de t'aimer ?
Oui, sans doute depuis un petit moment. D'accord. Pour une raison simple, c'est que ma maman n'aimait pas son papa. Mm-hmm. C'était un homme, effectivement, analphabète, alcoolique, rustre, violent, etc. Sauf que ce grand-père m'aimait beaucoup. Et évidemment, j'ai compris par la suite, quand j'ai pris des études supérieures, plus tard, qu'il y a eu un transfert de haine. Parce que ma maman haïssait vraiment son papa, quoi. Alors que son papa, c'était l'inverse vis-à-vis de moi. Donc en plus, je lui annonçais que j'étais pas ce qu'elle voyait, ni même ce que moi je voyais. Parce que c'était très troublant, c'est quelque chose de troublant. Je comprenais pas vraiment ce qui se passait. J'ai mis très longtemps avant d'analyser tout ça, plus de 20 ans. Dans une période où il n'y a rien. Il faut savoir qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas Internet, il n'y a absolument rien.
Oui, donc en termes de sources d'informations, voilà. Il n'y a rien.
Ouais. Voilà, c'est-à-dire que quand on cherche à savoir s'il y en a d'autres comme vous, et ça ne m'est même pas venu à l'idée, c'est forcément qu'on est malade, puisqu'on ne correspond pas aux critères que l'on voit autour de soi et que l'on vous impose.
Donc tu t'es cru malade ? Tu t'es dit, je dois être malade, mais assez vite ?
Pas au début. Il a fallu que là, ce qu'on appelle maintenant, depuis quelques années, enfin une vingtaine d'années maintenant, ce qu'on appelle les thérapies de conversion. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça.
Ça portait un autre nom ou ça ne s'appelait pas ?
Oui, le nom ne va pas me venir là. C'était des soins appropriés.
Wow,
ça s'appelait des soins appropriés. Donc, en gros, pour moi, ce qui m'est arrivé, comme j'ai quand même assisté, parce que c'était très fort en moi, et c'était surtout le soir, quand j'allais m'endormir, Lucie arrivait. Alors que je porte un autre nom, le mot Lucie, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est arrivé comme ça. Je sais pas comment c'est venu, mais en tout cas, c'est comme ça. Ce prénom est arrivé comme ça. Et au début, j'ai pensé que c'était des rêves, quoi. Et puis, je me suis aperçu que c'était moi. Et donc c'est très bouleversant. On perd tous ses repères, tout ce qu'on a appris avant, dans son enfance. Même si déjà, depuis 11-12 ans, il y avait des choses qui ne m'allaient pas. Les jeux de mes petits camarades masculins, je ne pouvais plus les supporter. J'évitais les garçons, sans savoir vraiment pourquoi. C'est quelque chose de curieux, puis d'inquiétant.
Alors, tu as parlé de maladie, de soins, de thérapie. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment, tu en as parlé, ou quelqu'un dans ta famille en a parlé à un médecin.
Oui.
Alors, ça s'est passé comment ? Tu avais quel âge à ce moment-là ?
À cet âge-là, quand on a commencé à me soigner, parce que j'ai insisté, à partir de 13-14 ans, j'ai voulu quand même dire qui j'étais. Parce qu'en réalité, ma mère, par peur sans doute, a écouté, comme j'étais le seul, entre guillemets, garçon dans la maison. Mon père m'avait aménagé une chambre à part. Et donc, elle s'est mise à écouter à ma porte parce qu'elle avait semblé m'entendre. Elle s'est dit, il rêve. Non, pas du tout. C'est que je me suis mis à parler avec Lucie, qui était moi. Et donc, évidemment, elle s'est dit, il n'est pas bien, il parle avec rien. Donc, je suppose, et ça, je n'en suis pas sûr, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Elle a rencontré notre médecin de famille, elle lui a expliqué, et le médecin de famille lui a dit « Bon, je vois ce que c'est ». Là, par contre, par la suite, j'ai su que c'était ce qu'on disait. Il y a d'autres jeunes comme, qui sont comme ça. Donc on va lui faire des soins appropriés. Ça, c'est le mot, l'expression.
Ouais. Et le médecin, avant de... Enfin, si tu veux bien nous parler des soins après, je veux dire, tu as échangé avec lui?
Non.
T'as pas échangé avec
lui? Non, on n'a pas le droit. C'est, ce sont les parents. Les parents ont toute puissance sur leurs enfants. Le droit de les frapper, le droit de les punir, enfin bon, etc. C'est dans cette génération-là. Moi, je voulais continuer mes études. Et au collège, j'étais extrêmement bien noté. Je suis parti avec les félicitations de la directrice du collège pour dire. Et ma mère a dit non, tu feras telle chose. Donc, un apprentissage très dur, difficile. Pourquoi ? Parce que dans sa génération à elle, il fallait souffrir pour gagner sa vie. C'est ce qu'elle m'a dit. Ce sont ses mots. Donc, on m'a obligé à faire à rentrer dans un apprentissage à quelques centaines de mètres de chez moi, comme forgeron. C'est-à-dire, je mesurais 1m68, je pesais 48 kilos. Donc, très vite, je me suis trouvé un petit peu fatigué, quoi. Et là, j'en pouvais plus, quoi. Donc, ma mère m'a dit, si, tu feras comme ça, ton père est passé par là, je suis passé par là, tu passeras par là, comme ça. Et donc, Lucie m'a dit, non, il faut pas. Moi, je voulais continuer les études, je savais ce que je voulais faire, des études d'histoire. C'est ce que je ferai plus tard. Parce que je réussirai.
Et quand tu parles de tes études, tout ça, donc à un moment, pour revenir à ce qui ne s'appelait pas une thérapie de conversion, c'est venu, ça s'est passé à quel âge ? Est-ce que c'est venu gêner ta scolarité, tes études ? Ou ça s'est passé après, avant ? Ça a été en parallèle ?
Après, j'avais... Parce que je suis parti après. Il faut que je passe d'abord en chronologie pour expliquer. À la suite de cette thérapie de conversion qui a failli me coûter quand même, peut-être pas la vie, mais en tout cas la raison, mon père a eu peur. Et j'avais appris par une cousine qui était venue le voir qu'on pouvait se faire émanciper à partir de l'âge de 17 ans. Donc j'ai demandé à mon père m'a dit oui, je vais te faire émanciper. Donc on est allé à la mairie.
Oui, parce qu'à l'époque, la majorité c'était 21 ans encore à l'époque.
Oui, c'est ça. 21 ans.
D'accord.
Donc quand je quittais ma famille, j'avais 17 ans, avec le droit de faire ce que je voulais, sauf de quitter le territoire national. Et je n'avais pas le droit d'apprendre à conduire l'automobile avant d'avoir 21 ans. Sauf que si je n'avais pas de si je m'étais pas fait émanciper, je pouvais apprendre à conduire l'automobile à partir de 18 ans.
Okay.
Donc il faut payer. Tout se paye par des frustrations, des autorisations de etc. Voilà. Donc là, à partir de là, pendant ces deux premières années, j'ai insisté. Puis vraiment, c'était moi. Et ma mère un jour m'emmène à Nantes. Et ça, c'est à partir de là que Nantes, à l'époque, c'est une ville noire. C'est gris. Il y a encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des bombardements. Il y a encore des blocos partout dans les rues. D'énormes blocos. Et c'est pas très beau, quoi. Déjà, c'est ce souvenir, moi, qui vraiment un des premiers souvenirs. Et donc, elle m'a fait monter dans une sorte d'immeuble un peu à la Haussmann, des grands immeubles droits avec des grandes fenêtres, des grandes portes cochères. Je me souviens d'avoir monté un escalier très très large, en pierre, très large, en marbre peut-être. On est monté au moins sur deux étages, peut-être trois. Et là, on est rentré dans une pièce où il y avait un bureau avec une femme qui tapait à la machine derrière. Et puis, c'est là que ça a commencé, quoi. Là, c'est quelque chose... Bon, j'ai commencé depuis un an et demi à écrire tout ça, pour me sortir de tout ça. Donc, il y a quelques amis, quelques personnes transgenres qui m'ont aidé à ça, parce que c'est terrible à expliquer, à dire. Et en général, je me mets à pleurer, je m'effondre, parce que c'est des mots, des choses que je ne peux pas dire. Mais là, je sais que depuis à peu près un an, j'arrive à l'exprimer, quoi. Donc... je ne comprenais pas très bien où elle m'emmenait, je ne savais pas du tout, mais c'est ma maman.
Ouais.
Et on fait confiance à sa maman de façon... Enfin, c'est aveugle. Elle vous dit, on va aller là-bas, on va là-bas. On va faire ça, on va faire ça. Il n'y a pas de questionnement impromptu. Donc là, il y a deux personnes qui arrivent, je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai développé par la suite une paranoïa là-dessus. Un homme très grand, en blouse blanche, Et un autre homme en chemise blanche avec les manches retroussées. Je me souviens de ça. Et bon, à l'époque, j'étais pas très petite, donc j'étais pas très grande, donc j'avais pas fini, bah, parce qu'en plus, j'ai des retards dans ma...
La puberté, la croissance.
Voilà, c'est ouais. Ça. Parce que tout ça, ça me perturbait beaucoup. Mm-hmm. Donc, ils ont parlé, mais je me souviens pas très bien de ce qu'ils ont dit, et ce grand type m'a emmené, m'a pris par le bras, quoi. Donc j'ai senti que c'était pas très bien ce qu'ils faisaient. Donc ils m'ont fait rentrer, tous les deux, ma mère est restée derrière, et je comprenais toujours pas. Parce
oui, qu'il n'avait pas la moindre idée de ce que c'était, pas où j'étais, pourquoi, ok.
Absolument, okay. Absolument pas. Mmh. Et donc on m'a fait rentrer dans une autre pièce, après dans un petit couloir, et là c'est une pièce à peu près grande comme celle-ci, carrelée, plafond, les murs, le sol, carrelée de blanc. Il y a un bureau à droite, je me souviens vaguement, et au milieu de cette salle, cette pièce, il y a un fauteuil marron, avec un dossier très très droit, très haut. Et donc, on me fait assis là, on m'a dit, n'aie pas peur, ça fait pas mal, c'est pour ton bien. On m'a dit, c'est pour ton bien. Et à l'époque, c'est ce qu'on disait quand le médecin venait pour faire, c'est pour ton bien. On disait pas, on va te donner ça parce que, etc., on n'expliquait pas. On disait, c'est pour ton bien. Donc là, et c'est là où j'ai commencé à avoir peur, parce qu'ils m'ont sanglé mes poignets sur les accoudoirs, mes chevilles aussi. Et là, j'ai senti que ça n'allait pas du tout, quoi. Et donc, je me suis débattu, quoi.
J'ai l'impression que tu es en train de donner des consignes pour qu'on filme une scène de cinéma. les films où on voit les anciens hôpitaux psychiatriques, c'est vraiment ce que tu es en train de décrire là.
Je suis par la suite que ce sont des psychiatres, enfin un en tout
j'imagine,
cas,
oui.
Et qui je suis dans une sorte de succursale quoi, d'un hôpital quelconque de Nantes sans doute, je suppose. Et donc ils font venir en face de moi une sorte de petite table roulante avec une sorte de lampe, une grosse lampe. Et on me dit, il faut que tu regardes cette lampe sans fermer les yeux. Et ils la mettent en marche et ça fait des flashs, sans arrêt. Je ne peux pas regarder, donc je ferme les yeux et je ne peux pas me protéger, puisque je suis sanglé. Et ce personnage me dit, il faut ouvrir les yeux. Et je mets à crier, je ne veux pas. Et comme je tourne la tête, on me fixe la tête par une sangle au dossier.
Donc,
ça, c'est... Et ça a duré 3 mois et demi, 2 fois par mois, pendant un temps, je ne sais pas, 1 heure, 30 minutes, 2 heures, je suis incapable de dire la durée. Ce type se met à hurler des mots que je ne comprends pas. Alors j'ai appris plus tard, très très longtemps plus tard, la méthode. En fait, c'est une méthode, la lumière, par flash comme ça, c'est une méthode qui consiste à distraire la conscience de la personne qui va orienter sa défense sur la lumière.
Puis ça joue aussi, parce que c'est pas la même chose, hein, mais l'histoire de lumière comme ça, avec les yeux ouverts, les yeux fermés, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait des tests, des électroencéphalogrammes, c'est ça je crois.
Oui.
Enfin, c'est pas la même chose, hein, je veux dire, mais juste le principe de la lumière, hein, c'est juste ça.
Je vais y venir, justement. Et donc, forcément, ça devient horrible, parce que même la lumière passe à travers les paupières. On peut pas, parce qu'elle est très proche, elle est à 30 cm de moi, quoi. Et ce type-là hurle des mots que je ne comprends pas, et par la suite, on m'a expliqué, peut-être 10 d'années après, quand j'ai réussi à rentrer dans études universitaires, qu'en fait, cette lumière casse la conscience et automatiquement, tout ce qu'on dit, on le capte. Il n'y a plus de défense de la parole. Mm-hmm. Donc, on absorbe les mots. Et petit à petit, c'est revenu une fois, donc je suis revenu, je n'étais pas bien. Ma mère m'a dit, tu vois, il faut que tu se faire soigner comme ça. Je voyais pas pourquoi, de quoi il s'agissait. Je comprenais toujours pas, on m'a rien dit. Et ça a duré 3 mois. Et là, je hurlais à la fin, j'arrivais plus à monter les marches. J'avais le ventre qui se nouait. Ma mère me tirait pour monter les marches. C'est comme si j'allais me faire exécuter, quoi. C'est extrêmement difficile à expliquer, enfin à dire. Là, ça va mieux parce que ça fait peut-être maintenant une dizaine de fois depuis un an et demi que je le dis. Et je sais qu'il faut le dire.
On sent ton émotion et je te rappelle ce qu'on s'est dit en préparant l'émission. Hein, tu peux aussi dire stop quand si c'est trop douloureux, il n'y a pas de souci.
Mais c'est important dans ma génération que je dise ce qui s'est passé.
Oui, mais c'est très courageux et très. On voit bien que c'est violent. Hein.
Bah oui.
Les auditeurs et les auditrices, vous ne voyez pas Lucie, mais vous entendez sans doute à son ton. Hein, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle nous livre ce témoignage.
Voilà. Et pour en revenir à ce que tu disais, au bout de 3 mois, comme je faisais un apprentissage à côté de chez moi, j'ai commencé à avoir des pertes de conscience. Donc je tombais dans l'atelier, évidemment, mon patron d'apprentissage était voir mes parents en disant « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Il tient plus debout, quoi. Donc mon père m'a pris peur, et avec mes parents, ça a dû sans doute, ils ont dû discuter, mais pas devant moi en tout cas. Parce qu'on ne discute pas des enfants devant les enfants, forcément. Et donc mon père a dit « Bon, il faut arrêter ça parce que ça va pas. » Et au moment, à la fin du dernier mois, du troisième mois, j'ai commencé à avoir des crises d'épilepsie.
Ah.
Voilà. Donc, ça a duré plus de 6 mois. Et c'est terrible parce que ma mère me dit à un moment, tu vois que tu es malade, qu'il fallait qu'on te soigne. Alors qu'en fait, par la suite, j'ai su que c'était l'inverse. C'est parce qu'on me faisait ça que j'arrivais ça. Mais là, on n'a pas de discours inverse. Donc on se dit, peut-être que c'est vrai. Mmh. Peut-être que c'est parce qu'ils savaient que j'allais avoir des crises d'épilepsie qui m'ont emmené là. Mmh. C'est un discours complètement à l'opposé.
Oui.
Ma mère a écrasé ma vie avec ces gens-là. J'ai réussi par la suite, grâce à mon père, qui m'a fait émanciper. Et le dernier jour, parce que je ne me souviens pas des paroles qu'ils m'ont dites, ces deux personnes-là, si ce n'est que par la suite, pendant des années, presque une dizaine d'années, quand je voyais quelqu'un en blouse blanche, alors là, j'étais terrorisé, quoi. J'avais
peur.
Il y
a un vrai traumatisme.
Oui, j'étais devenu paranoïaque, enfin, je suppose. Dès que je voyais quelqu'un en blanc, les peintres, par exemple, qui étaient toujours avec des vestes blanches, je ne pouvais pas passer, je changeais de trottoir, enfin, tout ce qui était en blanc. Bon, alors j'ai compris, évidemment, parce que, Et puis, c'est surtout ce qui a été, par la suite, c'est pour ça que je témoigne parmi les personnes transgenres, c'est que, par la suite, à peu près une vingtaine d'années, à l'époque, ce mot n'existe pas.
Eh oui.
On est des hommes-femmes.
D'accord, c'est le terme qui est utilisé
c'était
à ce moment-là.
C'était le terme,
d'accord.
Mais que j'ai appris par un psychiatre quelques années plus tard, quand je suis parti, après être parti. Et c'est dans les dernières séances que j'ai eues à Nantes, avec ces gens-là, cet homme, à un moment donné, je hurlais tellement je souffrais de peur. C'est la peur. Et la peur, ça vous noue l'intérieur, à tel point que pendant 1 à 2 jours, parfois, je ne pouvais plus manger. Donc, je perdais du poids. Déjà, je n'étais pas grosse, je perdais du poids. J'étais rendu à 35 kilos. Je ne pouvais plus travailler, etc. Et mon père a pris peur, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai bénéficié de ça. Mais surtout, cet homme m'a dit une chose que je garde encore, mais que je veux dire parce que c'est comme ça qu'on nous prenait à l'époque. Il s'est approché de moi au visage et criait comme ça. « Mais enfin, petit, tu ne vas tout de même pas devenir un monstre. » Et ça, c'est faut savoir ce que c'est qu'un monstre à l'époque. Un monstre, c'est ce qu'on monte dans les cirques. La femme à barbe, les gens qui ont les pieds beaux, les nains, les bossus. C'est ça, les monstres. Donc, ça veut dire que moi, j'étais une monstre. Et ça, c'est très dur à accepter. On ne veut pas.
Comment se reconstruire après ça, c'est fou.
Oui, et surtout qu'il n'y a rien.
Ça t'a brisé.
Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a tiré de là. Je suis parti de Vendée à Strasbourg, où là, je m'étais... Parce qu'il n'y a rien, donc j'avais été à la poste. Pour savoir où je pouvais aller. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de foyers de jeunes travailleurs. Donc, je me suis dit, je vais partir là-bas, j'ai passé un CAP, etc., pour gagner ma vie, quoi. Et je voulais prendre des études, je voulais faire des études. Donc, j'avais remarqué sur les bottins qu'il y avait une université à Strasbourg et il y avait un foyer de jeunes travailleurs. Donc, je suis parti là-bas et j'ai commencé en tant qu'autodidacte. à reprendre mes études, à prendre mes études, commencer mes études en travaillant à côté. Donc j'ai fait ça, mais au bout de 8-9 mois, j'ai eu des peurs. Dès que je voyais quelqu'un en blanc, je me suis dit, on me cherche, parce que j'avais très peur qu'on me retrouve. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, en Vendée, en plus d'être considéré comme une monstre, il y a un endroit où qu'on avait très très peur, où on avait très très peur d'aller, c'est, comment dirais-je maintenant, ça s'appelle Mazurel. C'est un beau nom.
Hôpital psychiatrique.
Mais à l'époque, c'est l'asile.
C'est l'asile.
C'est la Grimaudière. Mmh. C'est l'asile psychiatrique. Et c'est un asile. C'est-à-dire qu'on est interné.
Ouais.
Et là-bas, il y a les alcooliques. Il y a les fous, comme on disait, les fous. C'est pas du tout le même langage que maintenant. J'ai eu très très peur, comme on voit là-bas. Très très peur. C'est pour ça que je voulais pas revenir, je voulais plus revenir en Vendée. Et quand on part, même avec ce papier, il faut laisser tout derrière soi. Il faut absolument tout oublier. C'est-à-dire sa famille, le peu de camarades qu'on avait, le peu, et toute son enfance. Toute son enfance.
Ouais. Et repartir à zéro, quoi.
Complètement.
Avec ces blessures qui sont des plaies béantes, ouvertes,
oui.
Et pas prêtes à se cicatriser.
Voilà. Et j'ai fait comme ça plusieurs villes. En France, notamment Tours, Lyon, Bordeaux. Enfin bon, et je suis arrivé à Avignon, où là, j'ai décroché un contrat avec les monuments historiques. Parce que je me suis formé aussi en université, en passant des formations, pendant les formations artistiques. Et en sociologie, parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre qui j'étais. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Donc ça, je voulais savoir qui j'étais.
Et j'ai une quête de sens dans les études choisies. Il y avait une quête vis-à-vis de ton histoire, en fait. Une recherche de connaissances à ce niveau-là, de ton identité.
Mon identité.
D'accord.
Et j'ai appris avant qui était ma maman, en fonction de ce que j'expliquais à mes profs, et puis à d'autres collègues, comment ma mère avait agi envers moi. Et on m'a dit, ben voilà, c'est un transfert de haine entre son père qui t'aimait, toi, donc ton grand-père, et ta maman qui le haïssait. Donc, en plus, tu as dit que tu n'étais pas un garçon, évidemment, ça c'est pas possible.
Donc ça t'a permis de comprendre.
De comprendre ça, au moins. Mais après, il faut assumer. Et en plus, hormonalement, j'étais complètement... Enfin, j'avais un aspect beaucoup plus féminin que je l'ai maintenant, beaucoup plus féminin. J'avais une petite poitrine, j'avais les cheveux en boule comme Angela Davis. Enfin, j'étais féminine, mais complètement féminine. Donc évidemment, dans un milieu masculin, on se posait des questions.
Bien sûr.
Sur moi, quoi. Parce que bon, j'étais pas grosse, enfin, bon, etc. Donc j'ai eu droit, évidemment, à des qualificatifs si j'étais pas un PD, par exemple. Hein, forcément, parce que je pouvais pas être quelqu'un d'autre.
Forcément. Alors, on va revenir à ça, je me permets de t'interrompre un petit moment, parce que dans quelques minutes, ça va être la chronique d'Annie. Donc, pour ceux qui nous écoutent pas d'habitude, je rappelle que la première chronique d'Annie est à 19h30. On va mettre un petit peu de musique avant, et puis après, on la retrouvera à 20h.
Okay.
Un peu de musique, qu'est-ce que tu vas nous mettre, Alex?
LP, Lost on You, donc un titre choisi par Lucie. Donc, c'est parti.
Merci, on y va. Came from
expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time.
Il n'y a pas eu ça la semaine dernière, le mois dernier. Il y en a eu d'autres, des bourdes, mais il n'y a pas eu celle-là.
Oui.
Et ça veut dire chouette, Alex est de retour. Oui. Je te taquine.
Tu peux.
Alors, nous avons 2-3 minutes de retard. Annie, la parole est à toi.
Ce n'est pas grave, hein, les minutes de retard. Aucun problème. Vous vous souvenez de Gérard D? Vous savez, le sale type qui était censé rendre fière la France, le bonobo en rut permanent, et encore, si ça se trouve, les bonobos comprennent mieux le principe du consentement, le type obscène qui sexualise une enfant à cheval et qui ne voit pas pourquoi ça pose problème. J'adorerais que vous ne vous en souveniez pas. Ça voudrait dire qu'on aurait enfin vraiment avancé et gagné du terrain sur le patriarcat et la culture du viol. Bon, on a un peu avancé. Le 2 septembre dernier, on apprenait qu'il était renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour les viols du 7 et 13 août 2018 sur Charlotte Arnoux. Enfin, on ne minimise plus ses actes. Enfin, on se rend compte de leur gravité. Enfin, l'aura se dissipe et révèle la noirceur. Enfin, les remparts de la culture du viol commencent à s'effriter. Pourvu qu'ils s'effondrent avec grand fracas, emportant avec eux tous ces abominables intouchables. Mais les assauts qui les feront céder doivent perdurer, sans relâche, parce qu'ils sont malheureusement très solidement ancrés. Laisser la justice faire son travail ne sera pas suffisant. C'est difficile d'y croire, en plus, quand on sait que lorsqu'ils sont condamnés pour association de malfaiteurs, c'est-à-dire en fait corruption, hein, parce que financer sa campagne avec le pognon d'un dictateur, ça mérite le nom que ça porte, les vieux bourgeois blancs, bénéficiant des privilèges de cette classe, peuvent aller soutenir leur équipe de foot pépouze. C'est difficile d'y croire aussi, parce que le 4 septembre, la France, pour la deuxième fois en 6 mois, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, pour les lacunes de son cadre juridique relatif au consentement et les défaillances constatées dans une enquête sur un pharmacien qui avait abusé de sa position hiérarchique pour imposer une relation sadomasochiste à sa collègue. En avril, la victimisation secondaire subie par 3 victimes adolescentes et les négligences au cours de l'enquête avaient déjà fait l'objet d'une condamnation de la CEDH. Cette nouvelle condamnation révèle également la victimisation secondaire à l'encontre de la plaignante, une durée anormalement longue de la procédure et d'autres manquements judiciaires. La culture du viol, qui gangrène les commissariats, semble perdre sa couverture petit à petit. Mais pour le moment, elle persiste à sévir. Et on la laisse faire. On l'a laissé tuer Amanda Glin, étranglée par un flic en janvier 2022. Ce flic, Arnaud Bonnefoy, avait déjà violemment détruit 2 ex-compagnes avant Amanda. Alors certes, il a enfin été condamné à 22 ans de prison, début septembre. Mais si la culture du viol n'existait pas, Amanda serait toujours là. Et elle ne serait pas seule. Ces histoires sordides sont malheureusement trop courantes. La longueur pesante de l'énumération des noms lors du fémage de la marche de novembre et le chiffre des féminicides annoncés par Audrey à chaque émission en disent long et percent le silence coupable qui couvre systématiquement les oppresseurs et leurs agissements. Sans relâche, il nous faut maintenir les assauts contre la forteresse patriarcale. Au nord, une voie est à l'étude. Les Écossais et les Écossaises pourraient bientôt considérer la misogynie comme un crime de haine. Les insultes et remarques à l'encontre des femmes qui allaitent ou à propos des menstruations, par exemple, pourraient être sévèrement punies. A priori, le kilt, ça aère aussi l'esprit. Mais déjà, en France, ce qu'on pourrait faire, c'est appliquer concrètement nos lois. Parce qu'on a constitutionnalisé l'IVG, certes, mais dans les faits, y accéder relève parfois du parcours de la combattante. 2 jours avant la journée mondiale du droit à l'avortement, et en prévision de celle-ci, qui a eu lieu le 28 septembre, le planning familial a rappelé dans un communiqué de presse que l'accès à l'IVG était très inégal sur le plan national et pas toujours garanti en zone rurale. La précarisation du système de santé et de son personnel, volontairement détruit par la Macronie, n'y est sûrement pas pour rien. Ce communiqué alerte également sur les entraves à l'avortement qui pullulent sur Internet et sous forme d'actions choc et morbides dans certaines villes contaminées par l'extrême droite et qui ne sont que très rarement sanctionnées comme elles devraient l'être. Le planning appelle donc à lutter contre la désinformation orchestrée par les anti-choix et redonne le seul numéro vert officiel permettant d'obtenir des informations relatives à l'IVG et une écoute bienveillante, le 0800 08 11 11. Pour terminer, j'avais un petit message pour les anti-choix confortablement assis sur les bancs de l'Assemblée. Au lieu de vous préoccuper de ce qui se passe dans nos utérus et de couvrir des criminels, occupez-vous plutôt d'entraver les assassins domestiques et de protéger les enfants des prédateurs.
Merci Annie. Eh bien, j'ai envie de dire malheureusement, comme chaque mois, tes chroniques remuent. Je dis malheureusement parce que tes chroniques sont très bien écrites et c'est très intéressant. Mais si seulement, comme on le disait tout à l'heure, tu pouvais faire un truc drôle un jour, ce serait bien. Ouais. Encore que j'aime bien les kilts. Hein. Vive le kilt, vive l'Écosse d'ailleurs, c'est très beau. On y va, non?
Hein, avec grand plaisir.
On va s'installer là-bas.
Oui.
Bon, par contre, on prend quelques pulls. Hein.
Et des parapluies. Oh, quoi que, il y a beaucoup de vent.
Ouais, les kawaii peut-être plutôt. Ça existe encore les kawaii, hein, je crois.
Oui.
Puisque tu as parlé des féminicides, c'est le moment pour moi d'annoncer le chiffre du mois, bien sûr. Alors, nous sommes le 1er octobre, mais donc le dernier bilan que j'ai est en date du 24 septembre. 116 féminicides. Ce qui signifie donc que entre le 1er janvier 2025 et le 24 septembre 2025, il y a eu 116 féminicides dans notre pays. À titre de comparaison, écoutez bien. L'année dernière, en 2024, le chiffre était du 18 octobre, c'est-à-dire donc un petit peu plus tard par rapport à cette année. Mais on était à 107. J'ai dit 116 là, hein ? On était à 107. Je suis remontée aussi, alors 2023, j'ai pas retrouvé les chiffres, bon. Mais je suis remontée à 2022, 4 octobre 2022, 99. 2021, 24 octobre 2021, donc 24 octobre, c'est un mois de plus, hein, c'est un mois de plus. Et on était à 96.
Donc c'est en augmentation.
En fait, voilà, 2021, 96, 24 octobre, 2022, 99, 4 octobre, 2024, 107, le 18 octobre, 2025, 24 septembre, 116. Je suis sans voix, on va finir à combien cette année-là? C'est terrible si... Donc 116, en 2022, on était à 124 à la mi-décembre. 124, 116, c'est pas très éloigné. Enfin, c'est horrible de dire ça parce qu'évidemment, les chiffres, ce sont des êtres humains, ce sont des femmes. Donc c'est difficile de parler de calcul, mais enfin, en même temps, les chiffres, c'est là aussi pour illustrer des choses atroces et ça permet aussi de mesurer les choses. Non, on n'invente rien. Non, ça n'est pas en train de disparaître. Non, la situation ne s'arrange pas. Il suffit de regarder les chiffres. C'est statistique. On peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres. C'est ce que les gens disent tout le temps. Enfin, là, c'est factuel. Hein. On peut pas dire que ça s'arrange. C'est clair.
Oui, puis il y a quelque chose de plus terrible. C'est que sur ces 116 féminicides, on peut estimer qu'il y a donc 116 hommes qui ont tué. Mais ce qui est terrible, c'est l'immense silence de tous les autres.
Oui,
et ça, par contre, ça fait beaucoup de monde.
Oui, oui, parce qu'au nom du « not all men », les ouin-ouin, tout ça, là, ouais, c'est... Oui. Et bien sûr, cette note optimiste... oui, Alex, tu voulais dire quelque chose.
Un morceau musical. Allez. Alors, une chanson... Alors, je vous présente... ça sera un homme, aujourd'hui.
Hein? Quoi?
Oui.
Comment?
Yves Simon.
Aïe, 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 un homme.
Yves Simon, et qui parle des femmes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Donc, c'est Les Souffrantes. Donc, c'est un titre qui date de 1999.
Ouais,
hein,
c'est pas récent.
Toujours d'actualité, ouais. Voilà.
Allez, c'est parti.
Héroïne au secret d'une histoire délirante, ce sont elles les souffrantes.
Excusez-nous, hein, mais Alex, quand
oui.
même.
Tout... Oui.
C'est le.
Bah oui.
C'est non, le nouveau jingle. J'ai pas fait sur mon... de... plusieurs fois dans l'émission en fait.
Oui, oui, non, mais tout va bien se passer.
C'est le running gag. Bah oui, cette chanson qui est très ancienne et comme tu disais, qui est vraiment tellement encore d'actualité, enfin, qui est méconnue, donc peut-être qu'on l'a fait découvrir ce soir grâce à toi.
Surtout ce qui s'est passé cet été avec le tremblement de terre, où les femmes qui étaient ensevelies sous les décombres n'étaient pas secourues, parce qu'il fallait absolument que ce soit un membre de leur famille qui vienne les toucher pour les sortir des décombres. Et donc, on ne sait pas combien de femmes sont mortes pendant... suite à ce tremblement de terre.
C'est un cauchemar.
C'est dingue, hein.
Ouais. C'est ouf. En fait, c'est... Ils les préfèrent mortes, quoi, en fait.
Mais les secouristes, ils ont tellement peur de perdre la vie, parce que la sanction, c'était ça. Hein. S'ils touchent une femme qui n'est pas la leur, la sanction est très sévère. Ouais. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire quand il n'y aura plus de femmes...
Bah, ils en garderont quand même quelques-unes, genre en élevage, pour la reproduction de la... Non mais, au bout d'un moment... Et puis évidemment que ça rappelle la servante écarlate, hein, même si c'est pas le même milieu, la même histoire, mais bon, le côté femme-élevage, quoi, je veux dire...
C'est
là pour faire des gosses, et puis c'est tout. Le reste, on n'est pas de vrais êtres humains. On n'est même pas des êtres humains, d'ailleurs, on est des... Bien, alors revenons donc à Lucie, donc on a eu, qui a partagé un témoignage extrêmement fort, extrêmement violent, qui nous a partagé son émotion, dont on a pu ressentir l'émotion, et aussi pendant qu'on passait une musique à l'antenne, on en a un petit peu parlé encore, à quel point c'était fort pour toi de partager cela, mais à quel point c'était important de le partager. Et tu nous disais qu'il avait fallu tout reconstruire, que on t'avait qualifié on t'avait donné des noms, des surnoms, des insultes, des injures liées au fait que tu étais, alors à l'époque on disait, comme tu nous as dit, un homme-femme, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Les gens que tu as rencontrés à ce moment-là ou après, qui sont devenus des proches, des amis, des... Comment tu leur as expliqué les choses ? Est-ce que tu leur as expliqué les choses ? Est-ce que simplement ils t'ont prise telle que tu étais et puis voilà ? Est-ce qu'ils ont posé des questions ? Est-ce que comment ça s'est passé ou comment ça se passe encore ? Peut-être, je ne sais pas.
Non, ben c'est parce que j'ai fait... En fait, j'ai fait une rencontre à Avignon, qui est la plus belle rencontre de ma vie. À l'époque, d'abord, je ne sais pas... tellement, je commence à comprendre que je ne suis pas toute seule. Mais je ne sais pas où m'informer, je ne sais pas vraiment non plus... Je me doute bien qu'il y a deux personnes, un corps masculin et moi. Le corps masculin, c'est autre chose. Mais il y a moi. Moi, c'est Lucie. Et à Avignon, donc, je travaille là-bas à la restauration du Palais des Papes, dans le cadre des monuments historiques, donc je suis relativement bien intégré. J'ai un petit studio dans une rue. Et je fais la rencontre d'une femme. Et j'ignorais complètement qu'il y avait des femmes qui pouvaient vivre ensemble. C'est une découverte. J'ai 21 ans, je viens d'être majeur.
Ouais.
Donc je peux faire plein de choses. J'ai le droit d'apprendre à conduire une automobile, enfin plein de choses comme ça. Et j'ai fait une rencontre... c'est métaphysique, hein, parce que cette femme que je vais rencontrer, je vais entre de la place du Palais des Papes à la place de l'Hôtel de Ville. C'est l'artère la plus fréquentée. Il y a des platanes. On est au mois de mai. 72. Et donc, je vois en face de moi sur le trottoir, il y a beaucoup de monde, mais il y a deux jeunes filles qui se tiennent par la taille et qui rigolent beaucoup. Et à l'époque, les jeunes filles ne se tiennent pas par la taille, ni même par la main. Elles marchent l'une à côté de l'autre. Et je trouve ça curieux.
Ouais.
Donc j'avance, et au moment où je vais les croiser, elles rentrent dans une porte, et en fait c'est un café. Et c'est là que je fais la rencontre de ma vie. Vraiment, parce que ce café, je dis, c'est curieux, je rentre. Et à droite, il y a un petit comptoir avec une femme qui est derrière le bar et qui est coiffée bizarrement. J'ai jamais vu une femme coiffée comme ça à l'époque. Enfin bon, c'est...
C'est quoi une coiffure bizarre?
Ben, c'est-à-dire avec... elle avait toutes les couleurs dans les cheveux, avec des petits papillons, les tresses, choses comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un dans la rue comme ça, quoi. Donc, et surtout, quelque chose qui me... que je trouve important, il n'y a pas un homme à côté d'elle. Parce que généralement, dans les cafés, quand il y a une femme, il y a toujours à côté d'elle le patron, entre guillemets. Et ça, je trouve ça bizarre. Surtout ça que je trouve bizarre. Donc je rentre, et elle me voit, elle me fait un grand sourire, et tout de suite, bon, il faut que je me planque. Donc je vois l'angle à gauche, je me mets dans l'angle du café, je m'assois, et c'est là que ça se produit. Donc cette barmaid, en quelque sorte, vient vers moi pour me demander ce que je veux boire. Et en fait, je m'aperçois que dans le café, il n'y a que des filles. Il n'y a que des jeunes filles. Que ça. Je trouve ça un peu bizarre quand même, parce que j'ai jamais vu ça, quoi, dans ma vie. Et donc, au moment où elle me demande ce que je veux boire, il y a une fille qui arrive, qui s'assoit à côté de moi, mais vraiment à me toucher. Et la barmaid lui dit « Ah, salut Lise, qu'est-ce que tu prends ?» Elle dit quelque chose, cette Lise, elle dit quelque chose. Et la barmaid me demande « Et toi ?» Et Lise lui dit « Elle prend comme moi. »
Ouais.
Donc là, je suis complètement déconcerté, quoi. Et en fait, cette femme, c'est la femme de ma vie. Je ne vais pas rester longtemps avec elle parce qu'elle mourra dans un accident de moto. Et là, c'est la catastrophe. Au bout d'un an et demi, c'est la catastrophe. C'est là que j'ai rentré dans un militantisme féministe par la suite, et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on me passe Lost on You, LP, parce que le jour où elle est partie, j'ai tout perdu là aussi à nouveau. Mais entre-temps, elle a réussi à... Parce que le soir même, il fallait que j'habite chez elle, quoi. Donc c'était... Et c'est une lesbienne, et elle m'a accepté, ce qui est très important pour moi. Tout de suite, elle me dit « T'es nouvelle, toi. »
Ouais.
Et c'est la première fois qu'on m'appelait... par le féminin. Et ça, c'est complètement déconcertant pour moi aussi. Et surtout, elle a accepté mon corps tel qu'il était encore. Et ça, personne ne m'a fait ça par la suite. Ça, c'est quelque chose de... Donc après, évidemment, je fréquentais que ce qu'on appelait à l'époque les goudous, c'est-à-dire les lesbiennes. Là, je me suis toujours arrangé dans les villes où je passais pour essayer de retrouver s'il y en avait, donc j'ai retrouvé. Et c'est grâce à ces femmes-là que j'ai pu surnager. Sinon, je ne sais pas ce qui me serait arrivé, quoi. C'est elle qui va m'emmener chez un psychiatre à Avignon. Et qui
donc là, pour situer dans le temps, tu as quel âge à peu près à ce moment-là?
J'ai 21 ans.
Tu viens de le dire, excuse-moi.
Et elle m'amène chez un psychiatre, mais je veux pas y aller, parce que le psychiatre, ça me rappelle quelque chose de très douloureux, je ne veux pas y aller. Elle réussit à me dire, si, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Donc j'y suis allé, il m'a accompagné, elle était à côté de moi, je lui tenais la main, enfin, je me souviens, c'est des choses très... très forte, un peu comme si c'était ma mère, mais une autre mère, hein, un peu ça. Et donc, c'est là que le psychiatre m'a expliqué que je suis un homme-femme, et que selon Jacques Lacan, qui est un psychiatre à l'époque, y a plein d'hommes qui sont des femmes. Alors là, ça me secoue un peu. Et
ce psychiatre-là, il n'est pas dans le jugement, celui-là.
Ah non,
justement,
pas du tout.
Il est dans l'écoute.
Parce que j'ai passé dans toute une série de soins d'écoute pendant 3 mois avec lui, puis avec Lise à côté de moi. Elle m'a toujours accompagné. Et c'est là que je lui dis un jour, je lui dis, je suis normal. Alors, oui, vous avez toujours été normal. Donc évidemment, ça change complètement ce qu'on m'avait pu m'inculquer ces dernières années. Et puis surtout, c'est la rencontre de Lise, surtout qu'on a vécu quand même 1 an et demi ensemble. Mais ce qui m'avait séduit de chez elle aussi, ce n'était pas simplement son côté femme-femme, c'est surtout qu'elle avait une moto. Elle avait une grosse moto. Une moto Buzzi 500 cm3.
Donc c'est plus la moto, en fait.
Impossible de résister à une grosse moto, quoi. C'est ça. Et malheureusement, alors par la suite, bon, j'ai expliqué ça, parce que elle m'avait dit, il faut que tu reprennes tes études, c'est bien, mais tu vas suivre un certain nombre de sessions. Donc j'étais parti à Bordeaux. Pendant que je partais à Bordeaux, pendant une semaine, je revenais. Et on se téléphonait plusieurs fois. Et donc ça a duré comme ça 6 mois. Donc on a vécu un peu plus d'1 an et demi ensemble. Et j'étais très heureuse, mais vraiment, elle aussi, parce que, enfin, on partage tout, quoi. On allait au Sainte-Marie-de-la-Mer, on allait au Gros-du-Roi, enfin bon, toutes ces... c'était bien, quoi. C'est la plus belle partie de ma vie. C'est la plus belle partie de ma vie. Et elle me faisait une chose que jamais dans ma vie on m'a fait après. J'ai vécu avec d'autres personnes, pour d'autres raisons, qui ne m'ont pas forcément satisfaite, hein, mais... Quand je rentrais, j'avais quand même un métier dur pour gagner ma vie de tous les jours. Elle me déshabillait et elle me lavait. Et quand vous vous faites laver avec une éponge par quelqu'un qui vous lave pour vous laver, mais pas que pour vous laver, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir vécu ça pour comprendre que c'est prendre soin de l'autre. Même si il y a autre chose, c'est prendre soin de l'autre. J'ai jamais vécu ça après. Jamais. Donc ça, c'est vraiment la rencontre. C'est la rencontre de ma vie. Que j'ai jamais, par la suite, j'ai jamais plus... Et elles étaient évidemment, à l'époque, très, très féministes. Hein. Il y avait des mots beaucoup plus durs que maintenant. Elle avait un blouson, je me souviens. Elle m'a appris à appeler des mots bécane, tout ça. Enfin, bon, c'était un goudou. Je savais pas ce que c'était goudou. Ben, goudou, c'est ça. C'est comme nous, quoi. Bon, d'accord. Et puis il avait un blouson sur lequel, dans le dos, c'était marqué SP. Et ça veut dire, ben, c'est quoi ça? Ben, Super Queen. Ben, c'est quoi Queen? Ben, c'est nous, quoi. Et elle m'a tout appris, quoi. Ça, et là, je parce qu'il est dans un autre univers que j'ignorais, mais totalement. J'ignorais totalement. C'est elle qui m'a expliqué qu'il y avait aussi des hommes qui vivaient entre eux, qui s'aimaient entre eux. Tout ça, j'ai appris par cette femme. Donc ça a vraiment été probablement ma mère, entre guillemets, dans mon genre. Quoi.
C'est l'histoire d'un coup de foudre aussi, parce qu'apparemment, oui. Hein, tu nous dis, le soir même...
Ah ben oui, c'est certainement la plus belle, avec mon garçon que j'ai eu beaucoup plus tard, et dont j'ai fait l'accouchement seul. C'est-à-dire, c'est moi qui ai accouché ma compagne de notre enfant, toute seule.
D'accord.
Et là, c'est quelque chose aussi de fantastique, quoi. Parce que, bon, il y avait une sage-femme à quelques mètres, mais elle n'a rien fait. C'est moi qui ai accouché notre enfant. Ça, c'est les deux seuls moments de ma vie où j'ai vraiment... J'étais heureuse, quoi. Après, quand je suis parti d'Avignon, parce que je suis revenu de Bordeaux et elle n'était plus là, l'appartement était vidé. Elle avait été vidée par ses parents. Et donc, je savais où ses parents habitaient, dans un petit village pas loin d'Avignon. Et j'ai été extrêmement mal reçu, parce que c'est là que j'ai compris qu'ils n'aimaient pas que leur fille soit lesbienne, et que c'était peut-être presque grâce à moi si elle était morte, enfin, etc., etc. J'ai voulu racheter la moto, et on m'a dit non, non, on l'a mis à la casse, etc. Ils avaient vidé tout, j'ai eu aucune photo.
Donc une très belle histoire, mais une fin de cette histoire à la fois tragique et à la fois douloureuse après.
Oui, mais elle est en moi. J'ai jamais voulu faire mon deuil, jamais, parce que c'est elle qui m'a soutenue, même après ça.
Donc le souvenir est entretenu. Alors, ben, on s'approche des 20h, donc est-ce que tu nous mets un morceau, Alex, avant de donner la parole à Annie à nouveau ?
Oui, je vais vous mettre Lola Mercury, qui est une artiste trans et qui est en résidence avec Madame Arthur. Donc c'est tout un show de burlesque, c'est du spectacle, donc voilà.
Ok, merci.
On découvre.
J'ai son image, j'ai son visage, mon cœur est un peu perdu. Je suis né lui, mais je me sens elle, et j'aime ce malentendu. Dois-je me cacher ou bien dois-je vivre comme je suis un homme et une femme? Mon corps est un scandale envoyé par le ciel. Comme je t'attire et te repousse, je crée des secousses en étant beau. Belle. Tu réalises que ta matière grise formate tes sentiments. Tu réalises que tu désires les corps et non les vivants. Mais es-tu capable de désirer les âmes? Car je suis un homme et une femme. Mon corps est un scandale envoyé par le ciel. Comme je t'attire et te repousse, je crée des secousses. En étant beau et belle, un peu d'amour sans déranger, un peu d'amour dégenré, un peu d'amour sans déranger.
C'était le running gag d'Alex. Ce morceau qu'Alex nous a fait entendre ce soir de Lola Mercury, c'est vraiment incroyable. Il est incroyable. Et tu as trouvé, Alex, hors antenne, l'adjectif pour parler du clip et du morceau qu'on vient d'entendre.
Oui. C'est hypnotisant.
Ouais, c'est exactement ça.
Donc, c'est d'une justesse, la chanson, elle incroyable. Est douce, elle est très poignante.
C'est vrai que quand on l'écoute une fois, on a envie de la remettre en fait.
Et oui, mais c'est ce que j'ai fait 5 fois de suite. Et je me suis dit, je vais la passer dans l'émission, celle-là.
Ah ouais. Chers auditeurs et chères auditrices, allez voir le clip et réécoutez le morceau. Annie, ta seconde chronique de la soirée, qu'on attend toujours avec beaucoup d'impatience. Si, ça c'est vrai, on l'écoute avec beaucoup d'impatience, on l'attend avec beaucoup d'impatience, on l'écoute avec beaucoup d'attention, et puis après on se dit, mince, ça va plomber ma soirée, quoi.
Je suis désolée, par avance. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive d'être chauvine ou chauvin, mais quand je pense à la Vendée, je pense à l'océan, à la brioche, aux Maugettes, aux Préfous, à la Trouspinette, au Palais. Enfin, à des trucs plutôt sympas, quoi. Mais force est de constater que ce n'est pas vraiment pour ça que la Vendée est reconnue. Finalement, elle rayonne souvent brun. Une espèce de peste brune qui dégouline et se répand, cultivant l'entre-soi aristocratique et l'eugénisme, et nourrit à la haine. C'est un article de Street Press qui, à propos d'une école privée sous contrat de Nioiseau, petite commune du pays angevin, qui m'a alertée. Dans cette écurie extrémiste de droite, on élève des nazis et on leur assure une reproduction lofée. C'est typiquement le style d'établissement qui permet à Charles-Henri du hameau de la patrie de s'épanouir financièrement et de rencontrer, puis saillir, parce qu'il n'y a que pour ça qu'elle existe, Marie-Joséphine de bonne famille, pour assurer sa descendance et donc la transmission de son patrimoine. Dans cet article, au-delà du dégoût que ça m'inspire pour ce système d'endoctrinement, ce qui m'a également choqué, c'est l'omniprésence de l'influence vendéenne à la Devilliers. Du royalisme au nazisme, il n'y a qu'un pas, si tant est qu'il y ait une séparation. Et cet endoctrinement est largement financé et encouragé à l'échelle du département. Les écoles privées sous contrat y sont légion. Parmi elles, l'institution de l'Espérance à Sainte-Cécile, à laquelle Bastion a consacré un article. Cet établissement accueille des élèves du CP à la terminale. Déjà, ça, c'est particulier. Mais les œillères, ça demande un maintien permanent, a priori. Enfin, du CP à la terminale, pour les garçons. Parce que les filles, c'est maxi jusqu'au CM2. Après, pour les Marie-Joséphine, c'est direction la maison. Il faut laisser les Charles-Henri gérer les affaires du pays et s'assurer qu'ils aient de quoi se sustenter et s'habiller, voyons. Incroyable. Nous sommes dans 2025. Je me suis demandé comment c'était possible qu'on tolère encore ce genre d'aberration et ces dérives sectaires, en partie financées par nos impôts. Je rappelle qu'une coupe budgétaire de 73% est infligée à la culture dans la région des Pays de la Loire. C'est-à-dire que financer l'entretien du patriarcat, c'est validé, mais permettre à toutes et tous de se cultiver, ça ne l'est pas. Pour essayer de comprendre, j'ai laissé traîner mes oreilles autour de moi dans ce département surprenant pour le meilleur et pour le pire. Et je me suis rendu compte à quel point la sororité était encore lacunaire. Évidemment, ces lacunes sont également entretenues et alimentées à dessein, à grands coups de charge mentale, de pression sociale, de culte de l'apparence, d'inégalités ciblées. Mais je crois qu'elles représentent un levier sur lequel il est peut-être possible d'agir. Dans ce que j'ai pu entendre, c'est le mode de vie de la tradwife qui était défendue, voire encensée. Et ce qui m'a le plus meurtri, c'est que celle qui le défendait nourrissait une sorte d'animosité malsaine à l'égard des féministes. Je crois que ce qu'elles ne parviennent pas à identifier, c'est qu'en tant que féministe, on se bat pour toutes les femmes, elles y compris. On ne cherche en aucun cas à leur retirer leur mode de vie, on souhaite juste s'assurer qu'elles l'aient véritablement choisi, qu'ils ne soient pas fatalement subis. On ne milite pas pour retirer des droits, on milite pour défendre les choix. À les entendre, j'avais l'impression d'être celle qui voulait les forcer à travailler. Alors que moi, je veux juste qu'on n'empêche personne de le faire, directement ou indirectement. Dans la chronique précédente, il était question de désinformation concernant l'IVG. Peut-être que le cœur du problème est là, finalement. L'information et sa manipulation. Le patriarcat dispose malheureusement d'un tissu très solide de soutien et de promotion. Ses idées sont omniprésentes et diffusées en continu. Elle cherche à nous diviser pour maintenir son oppression. Alors face à ce tissu de mensonges, la sororité et l'adelphité me semblent les meilleurs soins, les meilleurs alliés, les meilleurs moteurs. Les mobilisations intersectionnelles des 10 et 18 septembre dernier et toutes les actions mises en place entre ces dates et d'autres toujours en cours, me redonnent espoir. Elles sont l'occasion de revendications joyeuses et constructives, progressistes et bienveillantes. Loin des clichés de protestations violentes et populistes pour lesquelles on voudrait les faire passer. Pour cultiver cette note d'espoir et poursuivre avec les actions inspirantes, faisons un petit tour rapide aux Pays-Bas. Depuis les années 70, des marches Take Back the Night y sont organisées, revendiquant le droit à la nuit. Plus récemment, fin août, suite à l'assassinat de la jeune Lisa, âgée de 17 ans, alors qu'elle rentrait de soirée à vélo, les nuits des villes du pays sont respectueusement animées par des vélo-manifestations silencieuses contre les féminicides. Se réapproprier l'espace public de jour comme de nuit. Le seul coupable, c'est celui qui tue, pas la victime parce qu'elle était ici ou là à cette heure-ci ou une autre. Je terminerai par les mots de Nienke Gravemed, l'autrice qui les a postés à propos du Rechtsstaat, le droit à la nuit. « Je revendique la nuit, je revendique les rues, j'exige que la peur disparaisse. J'exige que les jeunes filles de 17 ans rentrent chez elles saines et sauves. » Ça vous dirait une balade nocturne géante à vélo, un de ces quatre ?
Ah oui, évidemment. C'est beau comme... Il y a eu une jeune fille qui a été tuée, bien sûr, mais cette idée, le fait de cette sororité, comme tu dis, ouais. C'est fort et c'est nécessaire.
Oui, et finalement, ça reste des actions qui peuvent être simples mettre en place. Ouais. Un petit groupe WhatsApp et voilà.
C'est vrai, se réapproprier la nuit, c'est...
Ouais, en plus, c'est symbolique.
C'est ça, ouais. C'est poétique, la nuit. Rien que les mots sont poétiques. Alors, j'avais lu, effectivement, ce que tu as raconté sur l'école dont j'ai pas retenu le nom, parce que sans doute je veux pas retenir son nom. Ouais. C'est complètement aberrant, hein, dérive sectaire, comme tu dis. Fou et c'est financé en partie par l'État. C'est totalement aberrant. Et quand tu parlais des tradwives, forcément, je pensais MASCU. Et puis tout à l'heure, dans ta première chronique, tu parlais du petit Nicolas. Hein? Et forcément, je me suis mise à penser à son fils.
Oui.
Ah, mais oui. J'ai pas retenu son nom, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. De toute façon,
Loulou.
On va l'appeler Loulou.
Loulou.
Qui... Loulou avec ses tatouages.
Ah ouais, alors le gars qui pose torse nu ou avec une chemise blanche dont les boutons sont prêts à craquer tellement elle est petite pour une fois qu'on voit ses muscles.
Non, mais il a une grosse moto en plus. Waouh.
C'est. Non, mais il vient d'où ce personnage? Donc, des mascus qui finalement deviennent en quelque sorte des influenceurs.
Oui, c'est ça.
Parce que c'est exactement ça. Il a le profil de l'influenceur
masculin.
C'est un influenceur. Mais je veux dire, chez nous, en France, il y en a. Mais il me semblait qu'on était quand même, enfin qu'on est jusque-là relativement épargnés. C'est-à-dire qu'il y en a, non mais, je veux dire, il y en a, mais tu les vois pas à la télé tous les 4 matins, tu les entends pas à la radio, regarde le Royaume-Uni.
Ce sont pas les fils d'eux, c'est peut-être pas ça.
Ah ouais, mais regarde le Royaume-Uni, en Europe, bon sinon il y a les États-Unis, mais au Royaume-Uni c'est de la folie quoi. Et c'est l'Europe, bon, c'est pas l'Union Européenne, mais c'est l'Europe, c'est le continent européen, hein, donc... Et j'avais l'impression que nous, on était quand même pas complètement là-dedans, pas encore. Alors, je sais pas ce que va donner l'avenir, mais quand tu vois que ce type-là, il arrive des États-Unis, il arrive de nulle part, il tient ce genre de discours, il pose de cette façon-là, et qu'on fait des reportages, des articles sur lui, je me dis, on est mal barré, quoi.
Oui,
bon sang qu'il aille voir son père en prison et qu'il reste avec lui,
Il faudrait donner des sujets plus intéressants aux journalistes, peut-être. Oui.
Est-ce qu'on peut appeler ces gens-là des journalistes, d'ailleurs?
C'est une bonne question.
S'il y a des journalistes qui nous écoutent...
Il y a des sujets beaucoup plus urgents et beaucoup plus importants.
Bah, évidemment.
Ça, quand même. Ils ont peut-être besoin de vendre. Donc,
c'est ça. C'est, effectivement, c'est... Donc, s'il y a des journalistes qui nous écoutent et qui veulent venir... Non, mais sérieux ? Qui veulent nous parler de ça, toujours en rapport avec le féminisme, avec les femmes, etc., de la façon dont ce qui se passe dans le monde et dans notre pays, de la façon dont les informations, les événements sont couverts, ben, c'est avec plaisir. Contactez-nous. D'ailleurs, puisque je parle de contact, vous voyez comme je fais une super liaison, j'ai oublié de vous rappeler en début d'émission que vous pouvez retrouver donc déjà... L'émission d'aujourd'hui qui n'est pas encore terminée, hein, vous pouvez la retrouver dès demain sur les ondes de Graffiti en podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver donc sur Spotify et sur Apple Podcast. Nous avons une page Facebook et un compte Instagram Histoire de Femmes et donc n'hésitez pas à nous écouter. Pour rappel, à nous contacter. Et pour rappel, le site de la radio, parce que vous nous écoutez peut-être pas tout de suite là sur le site de Graffiti, c'est www.graffitiradio.fr. Bien, nous avons toujours Lucie avec nous. Et entre-temps, on a Claire qui est arrivée. Bonsoir Claire.
Bonsoir.
Claire qui va, dans quelques minutes, nous lire des passages d'un ouvrage qu'elle a choisi, Lecture féministe. Alors, avant de te donner la parole, Claire, peut-être donc terminer avec le témoignage de Lucie. J'aurais deux questions dans l'ordre. Et puis d'abord, c'est comme tu veux. Alors j'en ai une, tu as parlé tout à l'heure du vocabulaire, des adjectifs. J'aimerais savoir à partir de quel moment tu as utilisé le féminin pour toi, si ça a été difficile ou pas, si ça s'est fait naturellement très tôt, enfin si tu veux bien en parler. Mmh. Et ma deuxième question, toujours pareil si tu veux bien, tu m'as dit, quand on a préparé cette émission, tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu es féministe. Et j'aurais aimé que tu nous dises ce que ça signifiait pour toi.
Ben, de toute façon, je suis féministe parce que je n'avais pas le choix, non plus. C'est-à-dire que dès mon adolescence, qu'on appelle l'adolescence de nos jours, j'étais une fille. Je ne me suis jamais considérée comme une femme, mais une fille. Mm-hmm. Parce que pour moi, dans ma tête, ça a changé depuis, mais pour moi, dans ma tête, une femme, c'est une fille qui a un enfant.
Ah oui.
Et une fille, ben, elle n'a pas encore d'enfant.
Ah oui, le passage de la fille à la femme, oui.
Donc pendant très longtemps, je me suis cadré là-dessus. Avec Lise, ça a changé, parce qu'elle m'a expliqué d'autres choses, évidemment. Et c'est à partir de notre rencontre qu'elle m'a expliqué les problèmes que les femmes rencontraient. Déjà, moi, j'en avais, donc ça s'est accumulé en plus. Parce qu'évidemment, c'était simplement mon identité. Mais je me suis toujours sentie féminine, toujours, depuis l'âge de 13-14 ans, quoi. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand vous avez un visage de fille et que vous sentez fille, c'est bien. Mais quand vous avez un visage de petit garçon, même si c'est un visage très gracile, ben vous êtes quand même un petit garçon, parce qu'on vous dit, vous êtes un petit garçon. D'abord parce que tu as un sexe, disons qu'à l'époque on ne disait pas ça, on disait un autre mot plus dépassé. Donc forcément, forcément tu es un petit garçon. Évidemment, le mot genre, le mot trans, etc., je l'ai appris, j'avais 40 ans.
Oui.
Très longtemps
on
après.
On ne nommait pas les choses et on préfère tout cacher de toute façon.
Oui, oui, et puis j'avais pas d'informations face. C'est qu'à partir de Lise, où j'ai, et puis ce psychiatre qui m'a expliqué les choses, malheureusement Lise est partie trop tôt. Et par la suite, bon, j'ai quitté Avignon assez rapidement parce que sa famille m'a fait aussi beaucoup de mal. C'est pas facile de perdre quelqu'un qu'on aime comme ça et de ne pas... Lise, pour finir sur elle, tous les ans, je vais sur sa tombe, tous les ans, depuis ce moment-là. Parce que je dis que c'est un peu difficile à dire ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas fait mon deuil parce que je ne veux pas faire mon deuil. Et le féminisme, pourquoi ? Parce que j'étais confronté aussi très rapidement quand j'ai voulu m'affirmer comme femme, entre guillemets, après Lise, et que l'on m'a mégenré, c'est-à-dire, t'es pas une femme, alors t'es un PD, parce qu'on disait pas un homo, on disait un PD, non, je suis pas ça. Et donc là, les ennuis ont commencé, évidemment, enfin, ont recommencé. Donc là, changement de ville, etc. Donc je finis par aboutir à Paris. Où là, j'ai, entre guillemets, découvert la communauté LGBT, mais enfin vraiment ce qui était embryonnaire à l'époque. Et où, malheureusement, j'ai été rattrapé par mon passé, dans la mesure où quand on rentre dans une entreprise à l'époque, surtout les métiers où on, comment dirais-je, on travaille des matières dangereuses, eh bien on passe une prise de sang. Et là, j'ai commencé à savoir que j'étais vraiment pas du tout comme les autres, entre guillemets, du moins ceux que je cohabitais. C'est que, on m'a dit, vous avez un désordre hormonal. La dernière de dire, c'est grave. Et les gens qui sont venus voir dans l'atelier où je travaillais, m'ont fait perdre mon travail. Ils ont dit au patron, ben non, vous pouvez pas le garder, il va avoir des problèmes graves, c'est pas possible. Donc, pendant 6 mois, je passe les détails, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais on est venu, même parce que je ne voulais pas aller dans... on m'a forcé pendant 6 mois à aller dans un hôpital de jour. Où là, on me faisait prendre des médicaments le matin avec d'autres jeunes qui étaient là. Sans que je sache, sans qu'on sache véritablement ce que c'était. J'ai su bien longtemps après que c'était des neuroleptiques. On nous disait comme ça, ce sont des placebos, mais bon, les placebos, à l'époque, le mot placebo, on ne connaît pas. Donc, on cherche, on trouve... On dit, ben voilà, ce ne sont pas des médicaments. Pas vraiment. Alors on dit, mais pourquoi on nous donne ça, etc. Et puis il y a un déclencheur qui m'a fait partir de là. D'abord, on m'a fait une opération. À un moment donné, on m'a dit, vous avez 2 kystes profonds à l'aine. Et il faut les enlever parce que ça va vraiment vous poser des problèmes dans quelques temps. Vous allez avoir des infections internes, vous risquez des infections. Donc, on m'a opéré. Mais j'ai pensé pendant très très longtemps, parce qu'on m'a dit que c'était des kystes, bon, on m'a opéré des kystes, quoi. Et je n'ai jamais su, sauf quand il y a une dizaine d'années que j'ai appris l'existence des intersexes, et où je me suis posé les questions là-dessus. Est-ce que en plus, j'ai pas autre chose? Donc là, je suis en relation avec Ellie pour qu'elle me trouve, il me trouve des informations là-dessus. Parce que je me pose quand même, j'ai encore 2 grosses cicatrices très très visibles au-dessus de ce qui me reste comme cercle, dans mon pubis, qui fait que c'est curieux, quoi, qu'on m'ait opéré là. Mais on m'a dit,
oui,
c'est des kystes.
D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est de creuser un petit peu voilà. Avec un journaliste, c'est ça, une journaliste. Je ne sais pas, vous en avez parlé tout à l'heure, je crois, que je ne connais pas.
Oui, c'est un journaliste, Elie Hervé. Ouais.
D'accord, ok. Avec qui tu es en contact et donc...
voilà, okay, et qui va me retrouver, peut-être des personnes qui pourront éventuellement me recevoir aussi à Paris pour savoir ce que c'est que cette chose-là, quoi.
D'accord, ok. Peut-être qu'on va donner est-ce que tu veux remettre un petit morceau maintenant, avant de donner la parole à Claire?
Oui, allez.
Quelque chose qui nous fera danser un peu,
peut-être un peu plus gay.
Ouais, ça serait sympa. Ouais, okay. Ça serait bien. Ouais.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père.
Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer,
bagarrer, bagarrer,
et qui s'empêchent de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi, je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent, et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles, elles saignent aussi. Désolé les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la taf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi.
Ça changeait un petit peu quand même hein, au niveau du rythme. On dansait un petit peu, on s'ambiançait dans le studio. Enfin, en tout cas, moi, un peu, ou en tout cas intérieurement. Donc, je vous ai dit qu'on avait reçu Claire sur le plateau, sur, dans le studio. Claire, à toi la parole. Qu'est-ce que tu vas nous lire hein?
Je vais vous lire un livre d'Élodie Thuaillon-Hibon, qui est avocate à Paris. Elle a un style littéraire où elle met des guillemets beaucoup. Alors, je vais dire entre guillemets avant le truc qui est entre guillemets. Donc, le titre est entre guillemets. Il faut faire confiance à la justice. Hashtag MeToo. Une mise au point indispensable. C'est aux éditions de La Motte, collection permis de déconstruire. Donc, je vais vous lire plusieurs extraits.
Ah ouais.
La question des viols pour lesquels on ne dépose pas plainte, est extrêmement préoccupante. Disons-le aussi, le taux de poursuite pour viol comparé au taux de plainte est affligeant. Si les difficultés sociales évoquées, les anciennes prescriptions, ou la différence entre guillemets, viol sociologique et le entre guillemets, viol pénal, c'est-à-dire la différence entre l'acte non consenti extorqué ou imposé et vécu comme un viol, et l'acte effectivement réprimé en tant que viol dans le code pénal, explique en partie le faible nombre de poursuites et justifie largement que nombre de juristes souhaitent aujourd'hui modifier les textes pour permettre de mieux prendre en compte davantage d'agressions. Cela ne suffit pas à justifier le gouffre qui existe entre viol, plainte et condamnation. L'attitude et le manque de formation au sein de la police ou auprès des gendarmes en charge de ces affaires, ainsi que le détachement avec lequel trop de procureurs et procureuses traitent ces dossiers, à distance, en 5 minutes de téléphone, avec la gardienne ou le gardien de la paix en charge des investigations, y sont aussi pour beaucoup. On se donne souvent peu de mal pour rechercher les indices, tant on est obsédé par la, entre guillemets, preuve matérielle. ADN ou traces physiques, alors que celles-ci demeurent assez rares dans ce type d'affaires. De même, la méconnaissance de ce qu'est un viol, même pour des professionnels, ou la volonté de se préoccuper uniquement de ce qu'eux-mêmes estiment être de vrais viols, pèse lourd. Un policier expliquait ainsi à une audience de cour d'assises que pour ses collègues et lui, le dossier de Madame X était un « entre guillemets miol », c'est-à-dire un « entre guillemets demi-viol », parce qu'il « entre guillemets manquait de violence ». Ils n'étaient pas « entre guillemets convaincus » et ils se sont contentés « entre guillemets » du service minimum jusqu'à qu'une juge d'instruction finisse par intervenir. Par ailleurs, la tâche du parquet étant d'abord de trier les plaintes avant de saisir un juge d'instruction, on se focalise généralement sur des dossiers où les actes et le non-consentement semblent sauter aux yeux, éliminant tous les autres. Dans la mesure où la preuve des violences sexuelles demande un travail de reconstitution important, il faut comprendre à quel point cette étape est décisive dans le traitement des plaintes. La Convention d'Istanbul parle bien de consentement considéré dans le contexte des circonstances environnantes. Et dans bien des cas, c'est en effet l'examen de ces circonstances qui va permettre, avec d'autres indices, de corroborer la parole de la plaignante. On a tôt fait sinon d'estimer que ce sont des affaires de, entre guillemets, parole contre parole, autant dire, entre guillemets, injugeables. Ne pas tout faire du côté de l'État pour combler la différence abyssale entre viol, plainte et condamnation est contraire aux engagements internationaux librement souscrits par la France. En outre, cela fait reposer sur les victimes elles-mêmes, alors que leur place est sans cesse critiquée dans la procédure, le déblocage d'un classement sans suite abusif, ce qui est aussi violent que contraignant pour elles. Dans le cas d'autres crimes ou délits comparables, par exemple les meurtres, les cambriolages avec armes et séquestration, le service public de la justice est bien plus proactif et épargne aux victimes ce volontarisme. La conséquence, c'est qu'une grande partie des victimes ayant reçu un classement sans suite ne font pas valoir leurs droits par la suite, soit parce qu'elles sont déjà épuisées par la phase de l'enquête dite « entre guillemets préliminaire » au commissariat, soit parce que ce classement sans suite équivaut à un désaveu et qu'elles en ressortent encore plus désespérées qu'avant, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de prendre un ou une avocate, soit parce qu'elles n'ont pas l'énergie ou le soutien suffisant pour envisager une nouvelle phase de procédure, ou tout cela en même temps. Dans les cas aboutissant à une condamnation pour un viol, la peine de prison moyenne devant les cours criminelles est de 9,6 ans ferme. Le taux d'acquittement est d'un peu plus de 5%. Et c'est peu. Lorsque la plainte est suivie des faits, les condamnations sont donc fréquentes et les peines moyennes ne sont pas laxistes. 9,6 ans de détention en France aujourd'hui, compte tenu notamment de l'état des prisons, et même avec des remises de peine, ce n'est pas rien. En revanche, ces peines sont disparates d'une cour à l'autre, parfois ridicules au regard de la gravité des faits. Et, comme vous l'aurez compris, elles sont finalement bien trop rares au regard de la réalité sociologique des viols. Rappelons-le, à peine 10% des plaintes font l'objet d'un jugement. Cette distorsion tient à différents facteurs déjà évoqués. Mais elle tient aussi à un manque de volonté générale sur le plan politique, de gouvernement, qui, quelle que soit leur couleur et malgré de grands discours, ne font pas des agressions sexuelles un véritable enjeu politique qui mérite qu'on y mette les moyens. On préfère généralement se concentrer sur des enjeux très médiatisés susceptibles de donner à une partie de la société un sentiment de sécurité. La justice tremble moins de condamner un innocent en matière de vol qu'en matière de viol, c'est certain. Dans les institutions qui restent encore fermées et dévolues aux hommes, ou s'exprimer en tant que femme pour les femmes, que vous soyez de droite ou de gauche, est un combat quotidien. Ce début de « front parlementaire féministe » est bienvenu. C'est cette même vague de fond qui a conduit à proposer la modification du texte pénal sur les agressions sexuelles. En faisant coïncider les textes avec la Convention d'Istanbul et en y introduisant notamment la notion de consentement libre, volontaire, spécifique, examiné selon les circonstances, il deviendrait possible de mieux tenir compte des facteurs comme la vulnérabilité ou la sidération. L'objectif de cette proposition ? Permettre une meilleure appréciation dans le processus judiciaire de ce qu'est un viol et ainsi augmenter le taux de poursuite. Ce serait une bonne chose pour l'avenir. Rien de tout cela ne tombe du ciel. Ce sont bien les mobilisations renouvelées des victimes, des femmes et de leurs alliés à différents niveaux de notre société, dans les rues, devant les institutions, le 8 mars, le 25 novembre, chaque fois qu'il le faut, mais aussi les courageuses prises de parole d'élus locales en faveur de nos droits, la dénonciation des violences dont elles-mêmes ont été victimes, ou encore une meilleure visibilité médiatique de ces enjeux de société qui favorisent les changements. Une demande s'élève enfin de la population. Élus et gouvernants sont sommés de rendre des comptes sur le sujet des violences de genre.
Merci Claire. Donc on le rappelle, tu veux nous rappeler le nom de l'autrice, s'il te plaît, et le titre de l'ouvrage ?
C'est Élodie Thuaillon-Ibon, qui est avocate.
Oui.
Entre guillemets, il faut faire confiance à la justice. Hashtag MeToo, une mise au point indispensable.
Merci pour ce choix, merci pour cette lecture. Je ne sais pas ce qu'on peut ajouter après ce que tu viens de nous lire, après les mots que tu viens de prononcer.
C'est un tout petit livre qui est vraiment qui fait 90 pages, qui se lit très bien. C'est très bien écrit, c'est écrit de façon fluide. On apprend plein de choses et vraiment, il est vraiment très intéressant.
Tu l'as lu récemment ?
Oui, je l'ai lu récemment.
Ça date de... C'est pas très vieux en même temps, mais...
Non, je pense pas que ça soit très vieux.
Tu as l'année de...
2025.
Oui, donc c'est vraiment très récent, effectivement. Donc, on recommande cette lecture. Merci. Alors, j'ai oublié de préciser, Claire, qui nous fait cette lecture au nom du collectif Nous Toutes 85.
Tout
je
à fait.
J'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Donc, on salue tout le monde du collectif. Mais il est déjà l'heure.
Et oui.
Alors, merci beaucoup, Lucie. Merci de ta confiance. Merci d'avoir partagé une partie de ton vécu. Et on pourrait faire encore d'autres émissions avec toi, tellement il y aurait encore de choses à dire. Encore merci, Claire. Les filles, on s'auto-congratule. Hein.
C'est ça.
Voilà.
Ouais.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs, et rendez-vous le premier mercredi du mois de novembre. Bonsoir.
Bonsoir.
Hein.
Bonsoir.
À midi, 19h-20h. Histoire de femmes.
Je continue à parler.